Je vais partager avec vous quelques idées de ces êtres aux frontières. C'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler depuis longtemps et finalement, pour une chose ou une autre, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de le faire. Donc, c'est un travail qui commence, qui est là en stock depuis quelque temps, mais qui ne fait que commencer. Donc, je vais démarrer par une petite citation d'un jeune homme qui s'appelle Ibrahim Sagara, dont je vous parlerai pas mal aujourd'hui. Ils sont là tout le temps. Ils sont là tout le temps sur la route. On en parle. Les nouvelles qui arrivent tous les jours, aussi ceux qu'on ne raconte pas. Tous les morts qui hantent la route, les. Ils restent dans nos têtes. Les morts sont partout, partout, partout. Partout. Donc c'est ainsi qu'Ibrahim Sagara décrit la place centrale des morts dans la vie pendant la traversée vers l'Europe. Donc vous le savez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Des personnes meurent aux frontières et ces morts font partie du paysage aux abords de la Méditerranée, de la mer Égée. On en parle dans les médias, notamment depuis les grands naufrages qui ont eu lieu au large de l'île de Lampedusa en octobre 2013. Mais des migrantes et des migrants meurent depuis bien longtemps, depuis une trentaine d'années. Des nombreuses recherches ont pu montrer qu'il existe un lien étroit entre la mort aux frontières et le durcissement des politiques sécuritaires et des techniques de contrôle des migrations. Donc le pouvoir d'exposer à la mort est une expression de la souveraineté européenne et que des nombreux chercheurs, chercheuses analysent en s'intéressant à la façon dont les politiques et les pratiques aux frontières conduisent à ce que certains ont appelé une forme de gouvernement par la mort, dans une inspiration foucauldienne et en reprenant les travaux sur la nécropolitique de Membé. L'ensemble de mes travaux portent sur le régime frontalier et sur les effets des politiques en matière sur les personnes que ces politiques ciblent. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout l'impact de la mort aux frontières sur la vie ou sur les vies des personnes. Donc, je vais aujourd'hui m'intéresser à quelques-unes des manières dont les parcours des personnes migrantes, leurs expériences, leur subjectivité, sont traversées et façonnées par la mort au cours de la traversée. Je pourrais aussi vous parler des effets de la mort aux frontières sur les habitantes et les habitants des lieux frontières. C'est quelque chose sur lequel je travaille également, notamment à partir de mon terrain en Sicile. Et c'est finalement un travail qui porte plus sur la gestion des corps et sur toutes les pratiques qui visent à l'identification des corps, à la restitution auprès des familles. Mais ce n'est pas sur ça que je vais parler aujourd'hui. On pourra revenir tout à l'heure si vous voulez lors de la discussion. Donc, je vais donc me centrer sur quelques-unes des formes dont la mort aux frontières impacte la vie des personnes que j'ai rencontrées à la frontière, qui la traversent, qui tentent de la traverser. La mort est un horizon possible, une réalité matérielle, une présence spectrale, et elle traverse vraiment la vie des personnes qui tentent de franchir les frontières et qui tentent de les franchir, c'est une évidence de le dire, qui tentent de le faire sans en avoir les autorisations requises par les différents États pour le faire. Autour de Melilla, qui est cette enclave espagnole bordant la Méditerranée, la mort à la frontière est omniprésente, même si, contrairement aux frontières maritimes, donc Melilla est à la fois une frontière terrestre et maritime, La mort à la frontière, là, elle est. Enfin, il y a très peu de décès qui sont comptabilisés et peu des corps sont retrouvés autour des barrières qui séparent donc l'Union européenne de l'Afrique. Enfin, il y a une sorte de contradiction, en tout cas en apparence, entre une sorte d'intangibilité des morts et le foisonnement dans les histoires qui sont racontées, l'ubiquité, l'omniprésence dans la vie de tous les jours. Et cela parce que donc des nombreuses histoires sont racontées à la première personne sur les tentatives de franchir les frontières où l'on a frôlé la mort, où l'on a assisté à la mort des pères qu'on a dû abandonner pour pouvoir continuer la route. D'autres récits font état des disparus dont on pense qu'ils sont morts, des corps qui sont retrouvés mais qui ne sont pas identifiés, des récits sur des vivants qui sont hantés par les morts ou par les disparus. Donc, la frontière, on pourrait dire qu'elle est peuplée d'entités qui sont étroitement liées à la mort ou à cette éventualité de la mort sur place. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, que j'aimerais explorer, c'est comment les personnes qui traversent ces frontières se lient à ces entités et essayer de montrer comment, malgré le caractère, le caractère disruptif de ces, enfin, pour parler un peu comme Vinada, ce qu'on pourrait appeler des événements critiques, qu'est la mort, que sont les morts. Bah justement, la mort et les morts sont normalisées dans la vie ordinaire et produisent des nouvelles actions et redéfinissent certaines catégories. Donc, j'essaye ainsi d'explorer comment des nouvelles entités, qu'on peut appeler des êtres à la frontière, des êtres de la frontière, enfin, je ne sais pas très bien comment les appeler, c'est vraiment une tentative. On va dire border beings, qui est un peu plus générique. Donc, comment ces entités-là émergent et comment elles s'engagent ou sont engagées dans la vie collective et comment elles négocient le rapport entre présence et absence, visibilité et invisibilité. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler ou poser le regard sur deux de ces entités. Qui sont les disparus et les fantômes. Et toujours, enfin, je répète pour la dernière fois, mais toujours dans une tentative d'explorer les façons dont la violence ultime du régime frontalier, qui est la mort à la frontière, s'immisce dans la vie des personnes. Bon, enfin, on peut faire l'hypothèse qu'elle est morte d'existence, qu'elle est vivante. Prêtes à ces entités-là peuvent nous renseigner, enfin, je pense qu'elles peuvent nous renseigner sur quelques-unes des formes d'habiter cet espace des morts qu'est la frontière. Et donc, que ceci va nous renseigner plus généralement sur ce que fait le régime frontalier. Donc, pour cela, je vais m'appuyer sur un matériau. Ethnographique recueillie aux abords de Melilla auprès des personnes migrantes, dont la plus grande majorité sont des hommes, comme auprès des soutiens associatifs et religieux au cours de plus, que j'ai rencontrés au cours de plusieurs séjours, en gros entre 2004 et 2018, et puis avec des personnes, j'ai poursuivi. Les rencontres lorsqu'elles ont quitté la frontière, pour ainsi dire, j'en parlerai tout à l'heure, et donc que je vois assez régulièrement depuis. Sur la question de pourquoi des hommes et pas des femmes, ou sur les questions relatives au terrain et ma place, si vous voulez, on pourra en discuter tout à l'heure, pendant les échanges. Je dirais juste, comme ça, pour commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Que je m'appuierai donc pour accéder à ces entités invisibles dont il sera question, je vais m'appuyer notamment, surtout, et les pratiques des deux personnes, donc à partir d'une série de conversations et d'entretiens avec Ibrahim Sagara, que je citais au tout début, qui avait 24 ans quand je l'ai rencontré, et Mamadou Diawara, qui lui avait 27 ans. Tous les deux, je les ai rencontrés quelques jours après leur arrivée dans l'enclave de Melilla. Tous les deux sont originaires du Mali, de différentes régions, mais j'ai aucune intention et surtout aucune compétence pour présenter une étude des spécificités maliennes dans les rapports aux morts pendant la traversée. D'ailleurs, d'autres interlocuteurs venant d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, dont je ne vais pas parler en particulier aujourd'hui, partagent pourtant les mêmes modes d'attachement aux entités qui peuplent la frontière. Et, mais bon, c'est avec ces deux-là que j'ai souhaité vous parler aujourd'hui, à partir de ces deux personnes et de leurs expériences, notamment parce que c'est deux personnes que j'ai suivies depuis. Et donc, je vais essayer, vers la fin de ma présentation, de parler... essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ces entités de frontières une fois qu'on a dépassé la frontière géographique. Et donc, c'est pour ça que j'ai surtout voulu vous présenter mon travail à partir d'Ibrahim Sagara et de Mamadou Diawara. Donc, je vais commencer. Ibrahim Sagara me disait on sait qu'on peut mourir, mais tout ce qu'on veut, c'est éviter d'être disparu. C'est ainsi qu'il résume une discussion longue de plusieurs jours, initiée lorsqu'il m'a raconté dans le détail l'histoire de sa traversée de la mer à la nage. Il avait d'abord essayé à de nombreuses reprises de franchir la triple clôture ce dispositif qui ne cesse de se renforcer depuis 1998, qui est la date de la construction de la première barrière. Donc, cette barrière, vous avez peut-être des images en tête, de presque 12 mètres de long, qui couvre la totalité de la frontière terrestre qui sépare l'enclave du Maroc. Ibrahim avait participé à ces expéditions collectives qui consistent à prendre d'assaut la barrière, les barrières, à l'aube en général, et de grimper les 6 mètres de hauteur de la première, esquiver les obstacles, les forces de l'ordre, atteindre la deuxième clôture, faire pareil, atteindre la troisième, et puis courir pour ne pas être attrapé. Donc, je vous passe. Il s'agit d'une véritable épreuve physique qui demande beaucoup d'entraînement. Et à la suite d'une de ces tentatives frustrées, Ibrahim est attrapé par les gendarmes marocains et il est envoyé avec beaucoup d'autres personnes à Agadir, donc à 1100 km de Melilla. C'était une pratique fréquente à une époque. Qui fait partie de l'arsenal de mesures dissuasives. Et donc, il quitte la région, il est à Agadir, à l'autre bout du Maroc, et c'est là qu'il décide, il se dit, moi, je vais tenter ma chance à la nage. Il n'a pas d'argent pour payer un passeur, grimper, il se dit que c'est pas son fort, mais il se dit en même temps qu'il sait nager. Depuis qu'il est tout petit, puisqu'il a grandi tout près d'un fleuve, la mer, c'est pas pareil dans ce terme, mais il commence à s'entraîner tous les jours, il fait la manche, il s'achète d'abord une combinaison, plus tard une petite planche de plage pour enfants en polystyrène, qui sera de grande utilité. Et quand il se sent prêt, qu'il a l'argent nécessaire pour le voyage pour retourner côté Melilla, il prend d'abord un bus pour Fès, là sa planche qu'il place dans le compartiment à bagages au-dessus de sa tête dans le bus est cassée par le poids d'un sac que quelqu'un a mis par-dessus. Et d'après ce qu'il m'explique, seul noir dans un bus au Maroc. Il n'a pas eu le courage de faire la remarque à la personne qui a mis le sac sur sa planche. Et voilà, elle est cassée. Fesse, il réussit à la réparer avec du scotch. Et il obtient suffisamment d'argent pour payer un billet pour arriver. Lorsqu'il est à Nador, donc une ville qui est à quelques kilomètres de Melilla, il va quitter la ville sans rien dire à ses compatriotes, les compatriotes avec qui il venait de passer quelques jours. Il leur dit pas qu'il a l'intention d'arriver à Melilla à la nage. Et il m'explique qu'il garde le secret de peur d'être découragé par ses camarades. Donc, il arrive à 19h sur une plage de Nador. Il enlève ses habits, ses chaussures, il les jette à la mer pour ne pas aller alerter les policiers marocains. Donc, il essaye de ne laisser aucune trace sur la plage. Et il regarde les lumières de Melilla autour de 14, 15. Et il s'est dit, j'y serai dans la nuit. Je peux le faire. Et donc, il commence à nager, il part. Il s'éloigne de la côte pour ne pas être repéré. Il se pose sur sa petite planche lorsqu'il est fatigué. Et il me raconte que, traversé, il a perdu toute notion du temps, qu'il s'est guidé par les lumières au loin. Et il arrive. Il arrive au port de Melilla où il a été découvert par les autorités après avoir nagé plus de 14 heures. Les gardes-côtes ne veulent pas le faire sortir de l'eau parce qu'ils sont persuadés qu'il a été déposé dans l'eau par quelqu'un. Finalement, ils le laissent remonter, lui donnent, explique-t-il, une couverture argentée, un café pour se réchauffer. Et lui, il me dit, j'étais une Nokia. J'ai commencé à vibrer, les dents, tout le corps. J'ai pris une douche chaude. Ça a continué pendant 3 heures jusqu'au soir. Je me couche. Le lendemain, je me réveille. Je ne tremble plus. Alors, lorsqu'il me raconte cette expérience, il me dit qu'il n'avait absolument pas pensé à la possibilité de mourir pendant qu'il nageait, mais c'est quelque chose qui lui est venu après. Et là, je le cite, il me dit, tu sais, on sait qu'on peut mourir, on le comprend vite, mais tu continues parce qu'il y a quelque chose qui te pousse. J'étais concentrée, j'ai pas eu le temps de penser à tout ça quand j'étais dans l'eau, mais après, quelques jours après, c'était dans la nuit quand je dormais, et là, j'ai eu très, très peur. J'ai eu peur pendant des jours entiers, je crois. Aïe, 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 c'est fragile, la vie, c'est fragile. Je pense parfois que la vie n'est rien, c'est fragile, tu peux mourir comme ça. Il fait un geste de la main. Tu peux mourir et c'est fini. Ta famille pleure pour toi, tes amis. Mais si personne ne le sait, si ta mère n'apprend pas le décès, tu disparais dans la nature, tout s'arrête, mais personne ne le sait et c'est fini, fini pour toi. Tout est suspendu. Donc là, Ibrahim fait une distinction entre la possibilité de mourir et celle de disparaître. C'est une distinction que j'ai beaucoup retrouvée dans les discussions avec mes interlocuteurs. Donc, pour tous, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Décédé, le défunt est pris en charge par l'entité qui va l'inscrire dans des rituels déjà connus, tout ce que nous savons par ailleurs. Le mort occupe une place dans la société. Et donc, en cela, il continue d'exister. Le disparu, à l'inverse, ne subsiste que comme une énigme. C'est ce qu'il dit Ibrahim un petit peu dans cet extrait, ce qu'il dira plus longuement dans d'autres conversations que nous avons eues. Ne connaissant pas son sort, la famille ne peut pas le pleurer, c'est son terme à lui. À la fois absence physique et sociale, la disparition constitue un effacement imperceptible qui suspend en quelque sorte la personne disparue dans un espace-temps particulier. Donc, je disais, cette distinction est récurrente chez mes interrupteurs et elle fait sans doute écho à ce que certains et certaines d'entre vous ont pu observer dans des contextes très, très différents. Mais autour d'Amélia, cette distinction, elle a d'autres échos et elle est à mettre en lien avec des histoires qui circulent autour de l'enclave et dont Ibrahim m'a parlé aussi. Mais des histoires que j'ai commencé à recueillir, enfin, dont on m'a parlé vraiment à la minute 2 de mon arrivée, lorsque je suis arrivée pour la première fois à Melilla. Là, en l'occurrence, Ibrahim, on parle un après-midi. Il fait le récit, un récit qui est toujours à peu près le même, qui est le récit des disparitions qui ont lieu à la barrière, donc tout près des clôtures. Donc c'est un récit que j'ai entendu de la bouche des personnes migrantes, des salariés des institutions de prise en charge des migrants, d'activistes. Là, Ibrahim, en l'occurrence, cet après-midi-là, il me dit qu'à chaque tentative de sauter les clôtures, il y a des disparus. Je le cite, il y a des disparus, des frères qui meurent, et puis on ne les retrouve plus, ils ne sont plus là. Il en est certain, Ibrahim, même si cela ne s'est jamais produit lors des nombreuses tentatives auxquelles il a participé. Dans ses récits, il est toujours question des migrants qui meurent à la barrière lors de la confrontation avec la gendarmerie marocaine et ou la Guardia Civile. Donc les causes du décès sont toujours identiques. Mais en fait, lorsqu'il s'agit d'expliquer la disparition des corps que personne ne retrouve, des part et d'autre de la barrière, la narration cède sa place à toute une série d'hypothèses. Dans certains récits, ces corps seraient avalés par la terre, dans d'autres, ils seraient mangés par des chiens, et encore dans d'autres, ils seraient enterrés dans des fosses communes, ignorées de tous. Et en fait, ça, c'est les trois grosses explications que j'ai retrouvées à Melilla. Mais en fait, en rediscutant sur ces histoires de disparition avec Ibrahim, bien plus tard, un an plus tard, alors qu'il n'était plus à Melilla, il va ajouter encore une autre explication, qui est celle du trafic d'organes, et qui me sera également rapportée par d'autres jeunes à qui visite en Andalousie. Donc, je ne vais pas m'attarder sur... j'ai aucune intention d'évaluer la véracité de ces rumeurs, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ce qu'ils peuvent nous dire. Clairement, quel que soit le sort des corps, toutes les hypothèses formulées sur la disparition n'ont rien d'apaisant, enfin, comme dans tous les travaux sur les rumeurs, là, on est en plein dedans. Ces histoires contribuent à façonner un univers quotidien incertain et cette incertitude, elle est ici associée aux possibilités de mourir, bien évidemment, et aux probabilités de réussir le franchissement des frontières. Et elle révèle, pour reprendre un peu les caractéristiques dont parlait Louise White dans son travail sur les rumeurs, elle révèle les inquiétudes d'un espace particulier où il y a une très forte présence des forces de l'ordre. Et toutes les histoires, enfin ces histoires-là, s'appuient sur l'existence avérée d'une gestion brutale des personnes migrantes à la frontière, des abus, des mauvais traitements de la part des forces des deux côtés. Et en gros, elles mettent en mots cette violence des forces de l'ordre. Enfin, tout ça pour dire que ces rumeurs contribuent en quelque sorte à produire une espèce de trouble épistémique dans un espace qui est déjà saturé de sens, donc la frontière, non, cet espace qui est saturé de sens. Donc, dans ces histoires, pour revenir à la question des disparitions, ce qui me semble intéressant, c'est la façon dont, encore une fois, dont il y a cette distinction entre mort et disparition. Et comment, finalement, et c'est quelque chose que j'ai pu retrouver aussi dans le recueil d'histoires qui sont à la première personne, dans les, lorsque les personnes me racontent leur expérience de la traversée des frontières, on retrouve un peu cette même distinction là où là, qui montre comment la mort est en soi moins problématique que la crainte de disparition. Ce que l'on veut éviter à tout prix, c'est pas tant la mort, si on peut dire ça comme ça, que la disparition. Puisque justement, la disparition viendrait plonger les personnes migrantes définitivement dans une invisibilité dont ils font déjà en partie l'expérience, pas la même bien évidemment, et dont elles cherchent à tout prix à s'extraire. Et c'est d'ailleurs cette impression, cette expérience d'invisibilité qui va constituer pour beaucoup de personnes l'un des moteurs. Oui, l'un des moteurs du projet migratoire. Un autre élément qui me semble assez intéressant dans ces histoires des disparitions, c'est que elles font de la hantise individuelle une affaire collective, voire même une question politique, parce que c'est bien la frontière de disparition. Alors, diverses pratiques sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder existent ou sont mises en place par les personnes migrantes, individuellement ou collectivement, pour essayer d'éviter cette disparition totale. Et c'est leur disparition totale, effacement total, c'est des termes qui reviennent. Comment faire? Très simplement, demander à un compagnon de route d'apprendre le numéro de téléphone de sa mère par cœur pour qu'il la mauvaise nouvelle si elle devait avoir lieu, s'il devait arriver. Ça, c'est une forme assez efficace et simple de contrer cette disparition totale, ou donner le contact Facebook d'un petit frère, d'une cousine, est aussi une façon de prendre des précautions. Et toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter sur ces questions avaient conclu ce type de petit arrangement pour que les familles puissent être prévenus. Puisque contacter les proches pour que le mort ne disparaisse pas, mais aussi pour que la famille puisse traiter le défunt, semble l'une des choses les plus importantes pour toutes les personnes avec qui j'ai pu en parler. Donc, annoncer le décès constitue une forme de restituer, en fait, de restituer au mort une certaine traçabilité. Même lorsque la famille ne connaît pas l'emplacement final des dépouilles, elle sait au moins que le proche est décédé, que ce décès est survenu dans un lieu à un moment précis, et son histoire et son parcours peuvent en quelque sorte être retracés, au moins en partie. Et lorsque le corps n'est pas rapatrié, ce qui est presque la norme, le mort est pourtant en quelque sorte réterritorialisé, il est réintégré au sein des siens. Et en fait, c'est parce qu'il n'avait pas pris ces précautions-là, en cas de décès, qu'Ibrahim Sagara, enfin, lorsqu'on en parlait, il disait sans vouloir, et il en voulait à son insouciance. Il m'avait dit un jour, un peu en rigolant, t'imagines, punto, finito, aucune information, égarée pour toujours. J'avais trouvé après que le fait qu'il ait utilisé le terme égaré était quand même assez significatif, puisque c'est justement ça, c'est souligner le caractère un peu troublant du disparu qui perd contact avec son milieu soudainement. Je vais m'arrêter là, j'avais d'autres choses à dire sur les disparus, mais je vais m'arrêter là pour passer aux fantômes parce que je vois que le temps file. Et là, je vais surtout vous parler de Mamadou Diawara, qui me parle pour la première fois d'un jeune dont il ignore le nom, dont il sait seulement qu'il était Peul, qu'il a vu mourir en mer lors d'une tentative d'atteindre le sol européen, et qu'il l'escorte toujours partout où il va. Il dit, je ne le vois pas, mais il est là, je le sens et il m'apaise. Donc, la première fois qu'on en parle, on était assis par terre dans la rue en face du centre de séjour temporaire où il était hébergé, depuis qu'il avait réussi la traversée des clôtures vers Melilla. Et Mamadou me raconte là que le bateau était à la dérive, que le petit, comme il l'appelle, était faible, qu'il est tombé dans l'eau et qu'il s'est noyé devant ses yeux. Après cette expérience, Mamadou Diawara décide d'éviter la mer et de tenter sa chance, c'est son terme, à la barrière. Donc c'est pour cela qu'il rejoint les campements sur le Gourougou, donc cette montagne qui se trouve du côté marocain à quelques kilomètres de l'enclave, où s'organise pour beaucoup la vie dans l'attente de réussir le fond des clôtures. Il suit les conseils qui sont là depuis longtemps et initie lui aussi un entraînement pour essayer d'augmenter ses chances de réussir la traversée. Et pour lui, les tentatives s'enchaînent sans succès. Lors de plusieurs tentatives, m'explique-t-il, au retour sur le Gourougou, dans les campements, on parle d'histoires des disparus, des personnes dont on n'a plus de nouvelles, qu'on essaye de retrouver à partir des contacts ici ou là, et dont on n'a plus de nouvelles. Et en fait, un après-midi, lorsqu'il remontait avec deux compagnons vers le campement après une expédition pour récupérer des bidons d'eau, non, pour récupérer de la nourriture, pardon, le petit apparaît. En fait, plusieurs mois après sa mort, il était là. Il me raconte que ses camarades avec qui il était marchaient quelques pas devant lui, qu'il n'y avait aucun bruit particulier, aucune image, aucune odeur qui n'annonce sa présence. Et je le cite, il me dit, on marchait, j'étais dans mes pensées et puis j'ai su qu'il était là. Je me suis arrêtée un instant et après j'ai continué le chemin, il était là. J'en ai pas parlé aux frères sur le coup, j'étais comme étourdie. J'ai senti sa présence, ça m'a un peu étonnée peut-être, oui ça m'a étonnée, mais j'ai tout de suite compris que c'était bien. Et donc depuis ce jour, le petit apparaît de façon inopinée mais fréquente dans le quotidien de Mamadou, qui sent sa présence, il ne se parle pas, mais il sait que le petit le regarde. C'est son terme. Donc la relation entre Mamadou et ce petit se déploie de façon assez sereine, j'ai l'impression, depuis cette première apparition. Et d'ailleurs, il n'hésite pas, quand on parle, à faire des blagues, en fait, qui mettent un peu en exergue la peculiarité de leur lien. Par exemple, lors d'une conversation, il va me dire « je crois qu'il est tombé ». Donc, il revient sur les causes du décès. « Je crois qu'il est tombé, mais je me demande parfois s'il ne s'est pas jeté, s'il n'a pas préféré tout arrêter là. Ses yeux étaient vides, fatigués. Il avait peut-être pris la décision de mourir. » Il y a un silence et après, il dit « je pourrais lui demander, mais il ne va pas me répondre. » Et il se met à rigoler. Donc, peut-être que cette dernière phrase avait pour objectif de décompresser un peu l'atmosphère qui était un peu pesante, mais peut-être aussi, enfin, j'ai l'impression aussi qu'elle dit bien, enfin, les liens assez simples qui semblent entretenir Mamadou avec ce compagnon invisible. Il dit d'ailleurs souvent à quel point ce compagnon lui procure une forme d'apaisement. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes que j'ai rencontrées. L'apparition d'un compagnon décédé en mer ou dans le désert, pour d'autres personnes, est plutôt source d'inquiétude, d'angoisse. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et dans le même sens, en fait, l'apparition, là, elle a lieu à l'état de veille, mais pour d'autres personnes avec qui j'ai discuté des apparitions, elle a lieu, elle survient dans des rêves. Plusieurs personnes m'ont parlé des rêves récurrents qui sont toujours les mêmes, où il est toujours question de mort dont les corps n'ont pas été traités, qui surviennent ou qui apparaissent. Bon, clairement, quelle que soit la modalité d'apparition de ces revenants, les fantômes ne laissent pas indifférents les personnes qui les voient. Et comme pour en fait comme pour les rumeurs, je vais pas m'intéresser à ce que enfin je m'intéresse pas à la croyance aux fantômes, mais je vois là ou j'essaie de voir là comment ce qu'ils peuvent révéler, ce qu'ils peuvent dire. Clairement, il y a comme beaucoup d'études sur les spectralités, on peut dire, on voit là une sorte de persistance du passé dans le présent, et comment cette présence-là, enfin, ou la présence de cette absence-là, va pointer quelque chose qui doit être pris en compte. Bon, clairement, je pense que la communication, on peut dire cette sorte de communication sensible qui s'établit entre Mamadou et le petit, rend perceptible une histoire certainement douloureuse, qui est celle de la mort du petit, mais probablement aussi celle des épreuves de la traversée pour Mamadou. J'aurais tendance à penser que l'apparition fait aussi autre chose, mais j'avoue que je n'ai pas d'éléments pour dire quoi. Exactement. En tout cas, ce qui me semble, c'est que cette apparition fait émerger une dimension de l'expérience de la frontière dont on ne parle pas forcément toujours ou qui n'est pas forcément toujours dissible, et que cette apparition, comme d'autres, mais comme les histoires des disparus aussi, rendent compte par bribes des formes de cohabitation avec les morts, qui se déploie justement dans cette intersection de ce qui est visible, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est dissible, de ce qui ne l'est pas. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le terrain et avec qui j'ai pu échanger sur la mort à la frontière ou sur la mort tout court, bien qu'appartenant à des groupes différents, venant des lieux différents, avec des croyances différentes, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté de ces choses-là, il n'y avait pas de distinction binaire entre vie et mort, comme il n'y avait pour beaucoup pas de séparation claire entre le monde des vivants et celui des morts. Pour beaucoup des personnes, il existe des entités qui ne sont ni mortes ni vivantes. Et à la frontière, ces personnes se retrouvent entourées par des histoires des morts et des disparus, dont certaines font écho à des modalités de présence et d'existence qu'ils connaissent déjà. Et j'aimerais justement pouvoir me pencher, je ne pourrais pas dire grand-chose là-dessus parce que je n'ai pas encore travaillé, mais c'est vraiment sur cette question-là qui m'intéresse, et ces formes de correspondance qui me semble y en avoir et que je voudrais travailler bientôt. Ce que l'on peut dire clairement, enfin, ce qui me semble, c'est que les disparus de la barrière, comme les fantômes des morts sur la route, peuplent lui apporte une texture particulière et que ces entités-là, ces deux-là en l'occurrence, sont un peu comme les réfugiés ontologiques de Kohn. Enfin, cette figure dont parle Eunice Kohn dans son travail sur les morts des guerres au Vietnam. Donc, ces errants qui n'ont pas eu de sépulture et qui justement ne peuvent être fixés ni dans le monde des vivants ni dans celui des morts. Et dans ce sens, ces entités sont plus que la représentation d'une absence. Elles sont des figures qui me semblent quand même assez importantes pour comprendre la nature historique et politique, en fait, des subjectivités qui se créent, qui sont façonnées à la frontière, enfin, et qui habitent les frontières. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres que j'ai pu Enfin, il y a d'autres entités qui sont elles aussi intimement liées à la mort au cours de la traversée et qui sont également présentes autour de l'enclave des Melilla. Je pense par exemple aux corps retrouvés, mais qui n'ont pas de nom ni de biographie, puisqu'ils n'ont pas été identifiés. Je pense aux morts vivants, qui est une figure dont on parle souvent pour évoquer la vie. Notamment dans les campements du Grogu, donc des figures un peu pour simplifier, dont l'abondance sociale et l'extrême vulnérabilité poussent les personnes à une forme de vie nue. Il y a peut-être d'autres figures encore, enfin, c'est celles que j'ai pu identifier pour l'instant. Bien sûr, c'est celles dont je vous parle maintenant, les corps sans nom, les morts vivants. Ont, à la différence des disparus et des fantômes, un ancrage matériel tangible. Mais je pense que, enfin, dans mon esprit, et c'est pour ça que je vous présente quelque chose qui est vraiment plus qu'en chantier, enfin, qui ne fait que commencer, j'ai comme l'impression qu'il faut les traiter toutes ensemble, enfin, qu'elles font toutes partie de cette constellation d'entités qui sont vraiment très fortement liées à la mort pendant la traversée et qui circulent, qui habitent les frontières. Justement, je me demande aussi ce qui se passe avec toutes ces histoires-là, tous ces récits. Une fois les frontières géopolitiques franchies, que reste-t-il en fait de tous ceux qui sont morts ou qui ont disparu dans les vies des celles et ceux qui se trouvent maintenant en Espagne, en France, en Allemagne? Là encore, je n'ai pas beaucoup d'éléments ethnographiques pour avancer une réponse à la question. Je n'ai que des éléments très épars. J'ai comme l'impression qu'il y a bien sûr une forme de vie avec les morts de ce côté-là, pour ainsi dire. Donc j'ai réussi enfin, c'était pas du tout volontaire, mais finalement j'ai commencé à suivre les parcours d'un petit groupe d'hommes que j'avais rencontrés à la frontière, soit du côté marocain, soit arménien. Et j'ai continué à discuter avec eux sur les morts, sur les fantômes, sur les disparus. Et je trouvais assez intéressant que pour certains d'entre eux, ce qui était une sorte d'omniprésence connue, reconnue, relativement pacifique, donc omniprésence des morts, des figures autour des morts, devenait une sorte d'invasion une fois de ce côté. Je vais me débarrasser de tout ça. Je ne veux pas me rappeler, je ne veux plus savoir, me disait un jeune homme du Burkina Faso. Un autre, on était un petit groupe, et un autre disait, moi j'essaye de penser seulement aux légumes, puisqu'il travaille dans les serres en Andalousie, aux aubergines, mais toutes ces arrivent. Donc là, c'est Naba Tigré, lui aussi burkinabé, qui fait référence au souvenir des morts aux frontières comme des pensées soudaines et perturbantes, des natures invasives. Il me disait, parfois je pense aux disparus de la barrière, c'est de la folie. Tout revient dans ma tête, tout. Et en fait, tous les deux, là, ils me disent de ne pas en parler du tout, ne plus en parler du tout, et qu'ils tentent avant tout d'oublier. Alors qu'en fait, tous les deux, lorsque je les ai rencontrés, des disparus, des corps qui étaient retrouvés, donc à chaque fois qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient par Facebook, par des messages de WhatsApp qui arrivaient, oui, on vient de retrouver trois corps, et donc tout le monde se mobilise pour essayer de contribuer à leur identification, ou qu'on parlait des histoires des disparitions, bah, ils participaient de ces discussions-là, qui étaient une discussion presque au contraire. Ils se sentaient complètement submergés par ces images perturbantes. Et en fait, ces affirmations-là vont dans le sens de ce qui, par ailleurs, m'avait raconté plusieurs intervenants sociaux, des travailleurs sociaux et des psychologues qui travaillent auprès des personnes migrantes récemment arrivées en Europe, enfin là en France, qui me disaient qu'il était très difficile d'évoquer la question des morts pendant la traversée avec beaucoup de leurs patients ou usagers, selon le terme. Et il me racontait que la question était soit esquivée, soit mentionnée très vaguement, par brive, mais qu'elle était vraiment surtout occultée, ou qu'il y avait une sorte de détermination à oublier, ou même un refus ouvert d'en parler. On pourrait faire l'hypothèse que ce silence est lié à une sorte de capacité à anéantir qu'aurait la douleur. Donc, cette possibilité, enfin, que cette capacité destructrice, cette impossibilité à communiquer, enfin, je pense aux travaux de Scarry sur la douleur, comment elle peut résister au langage. Mais une autre hypothèse est possible, elle serait peut-être complémentaire, ça, j'en sais rien. Mais il me semble qu'un élément à prendre en compte, c'est qu'il est possible que ces souvenirs des morts ou liés aux morts ne soient partagés qu'avec des personnes ayant eu cette même expérience. En fait, je pense à ça parce qu'à la frontière, la cohabitation avec ces entités, elle peut être plus ou moins pacifique, plus ou moins sereine. Mais elle est, justement, ce que je disais déjà, elle est quotidienne. Donc, les formes d'interaction avec des histoires des disparus, des fantômes, avec d'autres entités de frontières, sont quotidiennes. Elles font irruption constante dans la vie, de tous les jours. Et cette profusion, je pense aussi que cette profusion d'histoires et d'êtres à la frontière contribue à créer une sorte de communauté de destin. Entre toutes les personnes qui se trouvent là, qui rend possible justement le partage d'expériences. Parler de ces entités-là, parler de ces morts-là, permet d'alléger la douleur, permet de faire une sorte de deuil collectif, si le terme vaut, ou en tout cas permet d'apprivoiser l'omniprésence des morts et de les gérer. Parce que finalement, sur mon terrain, Amélia, on parlait des morts comme on parlait, j'exagère juste un petit peu, mais comme on parlait de musique et comme on parlait de l'alcool, c'était parmi les ou des quelles étaient les meilleures villes pour aller en Europe. Ça faisait vraiment partie des thématiques, des discussions très très courantes. Alors ce qui semble plus difficile justement de ce partage. Enfin, en parler semble plus difficile, ça. Lorsque le collectif n'existe plus, lorsqu'il n'y est plus. Ibrahim Sagara de ce côté de la frontière, lui, il y est depuis à peu près 4 ans. Et il me racontait très récemment qu'il rêve de pirogues, de noyés, des disparus du Gourougou, ou de sa propre mort en mer, de temps en temps, mais qu'il n'en parle pas autour de lui. Ses rêves ne sont pas très, très fréquents, dit-il, mais ils arrivent de temps en temps. Il arrive à passer à autre chose, mais parfois, ça lui prend trop la tête, c'est son terme, c'est son expression. Et quand ça arrive, quand ça lui prend trop la tête, il prend sa calebasse et il se met à chanter. Il me dit « À chanter pour les morts sur la route ». Il est compositeur, il est chanteur. Et en fait, il chante pour leur rendre hommage. Et c'est ce qu'il faisait lorsqu'il était à la frontière, lorsqu'il apprenait le décès d'une connaissance ou lorsqu'il apprenait la découverte des corps morts, c'est lui qui organisait un petit moment de recueillement autour d'une chanson et de quelques mots qui étaient dits par les présents qui voulaient en parler. Pour Mamadou Diawara, la relation avec le petit et plus largement avec les morts semble en fait dans la continuité de ce qu'il a vécu à la frontière lui aussi. Le petit était apparu donc à la frontière, d'abord du côté marocain, ensuite dans l'enclave. Il me dit quand j'ai fait Boza, donc quand il a réussi le saut des grillages, quand il est arrivé au CETI, au centre de séjour où il était hébergé, il était là. Il était présent aussi à Malaga, où l'administration espagnole l'avait envoyé après 11 mois à Melilla. Et puis après aussi, en fait, quand je le retrouve après plus d'un an sans l'avoir vu quelque part, pas très loin d'ici, en banlieue parisienne, et je lui demande si son compagnon continue d'apparaître de temps à autre. Et là, il me dit, il sourit parce que j'évoque la question, et il me dit « le petit fait partie de moi ». Et la phrase très très parlante. Enfin, donc ça, à travers sa capacité à sentir la présence du petit, à lui accorder une place dans sa vie, on peut penser un peu comme dans ce que propose Vincent Després, de on peut penser que Mamadou accomplit en quelque sorte ou permet au fantôme de ce jeune Paul d'accomplir. Le rêve de ce petit, en fait, après avoir traversé de nombreuses frontières, il est là, il accompagne aujourd'hui Mamadou dans sa vie alsacienne. Et en quelque sorte, il prolonge ainsi son existence. Je vais finir là, très, très vite, juste sur deux points. Donc, vous voyez que c'est assez en chantier ce que je vous présente. Et donc, d'une part, cette dernière ouverture sur ce qu'il est de ces entités-là, une fois les frontières franchies, je pense justement qu'il y a quelque chose à étudier dans l'évolution de ces entités-là, mais qui semble aller dans le sens de penser qu'il y a une forme de pour le penser autrement, que les effets des politiques tels qu'on les voit à la frontière et donc dans cette vision d'histoire et d'entité des morts, qu'elles sont là, qu'elles sont ressenties aussi au cœur de l'Europe, qu'elles ne sont pas les mêmes, qu'elles n'ont pas les mêmes caractéristiques, qu'elles ne se déploient pas de la même façon peut-être. Donc, j'aimerais étudier pourquoi, comment tout ça évolue. Et puis, deuxième point, je pense que les Ibrahim Sagara et de Mamadou Diawara rendent compte de quelques-unes des façons, des manières de vivre avec les morts par la migration à la frontière. Et que cette vie avec ces entités-là est intéressante parce qu'elle dessine les contours de la politique de frontières comme une expérience incarnée. C'est ce que la politique cible. Et en ce sens, la phrase de Mamadou l'exprime très bien. Le petit fait partie de moi. Et dans le même sens, un jeune Burkinabé me disait « J'essaye de garder en moi, je le cite, un peu de chaque frère mort sur la route, à la frontière. Même aujourd'hui, cette frontière, elle est là. » Donc, il touche sa poitrine. Elle est là. Elle me traverse de la tête aux pieds. Je pense que c'est cette vie avec les entités de frontières a quelque chose à voir avec cette politique des frontières telle qu'incarnée, de la façon dont elle est parfois incarnée, cette expérience parfois incarnée, de celles et ceux qui traversent, qui tentent les frontières. Donc, je vais m'arrêter là.